Voilà, ce soir, nous allons, après le mois dernier, avoir évoqué la question de la communion des saints. Aujourd'hui, nous allons cheminer entre l'enfer, les enfers, le paradis, en sautant prudemment quelque chose que nous plaçons parfois au milieu et dont on pourra avoir quelques développements le mois prochain. Voilà. J'avais beaucoup souri quand, en me répondant à la sollicitation que je vous avais adressée, vous avez mis quelque chose de l'ordre. J'ai commis un livre sur
Sur le
l'obligatoire. Et
purgatoire,
si vous aviez quelques questions, point de suspension.
Non, mais on va laisser ça pour la prochaine fois.
Voilà, donc je
Même
ne
si
sais pas
c'est.
si je fais appel à vous à contre-emploi ou pas, mais
Non, mais on va parler d'autres
voilà.
choses. Mais je reviendrai peut-être un peu parce que le purgatoire, c'est vraiment le sujet que j'ai le plus travaillé.
J'imagine, oui,
Mais
étant.
on va essayer de parler d'autres choses.
Voilà, Dom Paul est le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Montlignon. Et donc, effectivement, la question du purgatoire est un peu centrale là-bas. Voilà, merci d'être là. Je vous donne la
Merci.
parole.
Sachant que le purgatoire, ce n'est pas entre l'enfer et le paradis. Le purgatoire, c'est vraiment la porte du ciel. Souvent, on le met entre les deux, là, mais c'est une mauvaise compréhension. Et si justement, si j'ai écrit un livre sur cette question du purgatoire, c'est pour réhabiliter ce pauvre purgatoire qui n'a pas fait de mal, qui n'a fait de mal à personne, au contraire, et de faire redécouvrir que c'est une réalité de la miséricorde et de la justice divine. Donc, il y a quelque chose de. Enfin, c'est un mystère lumineux, cette réalité du purgatoire. Et malheureusement, il a souffert du 19e siècle, qui est de la période romantique et du spiritisme de Victor Hugo, qui en ont fait quelque chose où on s'est complu sur la douleur et la souffrance du purgatoire. Alors que le purgatoire, c'est vraiment l'antichambre du ciel, c'est le désir du cœur qui est travaillé par le désir de Dieu et qui prépare justement la rencontre définitive. Donc c'est vraiment lumineux le purgatoire. J'espère que c'est ce que c'est. J'espère que c'est ce qui sera dit la semaine pro... enfin, le mois prochain. Voilà, parce que. Donc mais effectivement, alors je suis désolé, je suis un peu en décalage parce que je viens tout juste de rentrer d'Asie. Voilà. Et effectivement, il y a plein de. Je ne savais pas trop comment articuler ces propos parce que enfer et si elle est enfer, c'est. Voilà, bah, je pense que si vous êtes venu, c'est que la thématique vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une longue introduction sur la question de la mort. Parce que c'est quand même un préalable. Et puis après, on va voir quelle est la promesse que le Seigneur nous fait. Parce que vous le savez, nous allons fêter le Sauveur. Et Jésus Sauveur, c'est le nom du Seigneur. Dieu sauve. Est-ce que vous savez de quoi il nous sauve? Il nous sauve de nos péchés, effectivement, il nous sauve du mal, du mal, de la culpabilité du mal qu'il vient prendre sur lui et il vient nous donner le pardon du Père. Oui, il nous sauve de nos péchés. Et il vient nous sauver de la mort, effectivement. Il vient nous sauver de la fatalité aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas de fatalité. Et justement, ce qui fait que nous. La différence entre le chrétien et celui qui ne croit pas, entre le païen, c'est que le chrétien, il a une espérance. Il a une espérance. Son avenir n'est plus bouché, ni par la mort, ni par une forme de fatalisme. Il vient nous sauver de la mort. Enfin, nous, le problème, c'est qu'on baigne dans un christianisme depuis très longtemps, et on s'est habitué à cela. Et justement, le mystère central de notre foi, qui est préparé par le mystère de Noël, c'est le mystère de Pâques. Et je pense qu'il faudrait peut-être redécouvrir l'enthousiasme et comment s'appelle la surprise que ce phénomène de la mort et de la résurrection du Christ sont dans l'histoire, en fait. Que cette réalité, que cet événement vient tout transformer, en fait. Et justement, la victoire définitive de Dieu sur la mort. Parce que d'abord, on va tous mourir, c'est une certitude. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la seule. Alors, sauf si le Seigneur revient aujourd'hui, évidemment, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous attendons dans toutes les prières. À la messe, nous attendons ta venue dans la gloire. Il y a cette attente du retour du Sauveur, mais bon, a priori, on est tous marqués par la mort et c'est ce qui nous attend tous. Et face à cette mort, eh bien, nous ressentons une angoisse qui est normale, qui est légitime. L'angoisse a plusieurs titres. Alors, je vais passer un peu rapidement, hein, parce qu'on n'est pas, je suis pas là pour parler de la mort ce soir, mais je pourrais en parler pendant des heures. Parce qu'à Montlégion, on accompagne la question du deuil, on réfléchit beaucoup sur ce drame de la mort, qui est un drame abyssal, en fait. C'est un abîme, la mort. La mort d'un proche, la mort d'un conjoint, la mort d'un enfant, tout s'effondre. Et quelle espérance face à cette mort et quelle angoisse elle suscite en nous. Elle suscite en nous plusieurs angoisses. D'abord parce qu'elle fait mal, la mort, elle fait toujours mal, je pense. J'ai toujours trouvé ça violent, le mois d'accompagner des personnes qui allaient mourir, parce qu'à un moment, vous avez un malade qui est encore en vie, même s'il est très affaibli. Et quelques instants après, vous avez une rupture métaphysique, vous n'avez plus qu'un cadavre. Ça m'a toujours marqué. J'ai passé 3 mois dans les mémoires de Mère Teresa, parfois la mort de quelqu'un que je ne connaissais pas me faisait pleurer, parce que je trouve que la mort est métaphysiquement violente. Elle est violente aussi parce qu'on ne sait pas quand elle va nous arriver. On est certain que nous allons mourir, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Ça va peut-être arriver ce soir, demain, dans 10 ans, dans 50 ans, mais on ne maîtrise pas la mort. Vous voyez, là, j'essaie de maîtriser mon agenda. J'ai l'agenda de tous les chapelains. Il y a un confrère qui rentre du Togo ce soir. On essaie de maîtriser nos agendas. Et il y a une chose qu'on ne peut pas maîtriser dans notre agenda, c'est cette question de la mort. La mort aussi, elle nous fait mal. Et là peut-être que je vais... Ça, c'est un des aspects sur lesquels je vais peut-être plus m'attarder. C'est que la mort, elle nous manifeste notre solitude profonde. Que ce soit la mort d'un proche, quand on perd un proche, on se sent plus seul. On se sent seul. Ça commence par la mort de la grand-mère qui vous a aimé de manière inconditionnelle. Vous saviez que vous pouviez faire n'importe quelle bêtise, votre grand-mère vous pardonnerait toujours, il y aurait toujours son sourire, toujours sa pensée, toujours son amour. Et le jour, c'est fou, moi je me rends compte de cela dans mon ministère. C'est souvent le premier deuil, quoi, le deuil fondamental qui a fait mal à l'enfant que nous étions. C'est d'ailleurs, quand j'en parle aux enfants, évidemment qu'ils se projettent, enfin la mort ça les concerne pas, ils vont être projetés dans la vie a priori, quand on leur parle de la mort, la première angoisse qu'ils expriment, c'est j'ai peur de perdre ma mamie. Donc la mort elle nous laisse seul quand on perd celui ou celle qu'on a aimé, quand on se sent seul. Et puis dans ce mystère de la mort aussi, on est seul, on est fondamentalement seul, peut-être accompagné des personnes en fin de vie, on peut faire beaucoup de choses, on peut s'agiter autour de ces personnes, on peut les accompagner, mais on ne peut pas mourir avec elles. Je me souviens d'avoir accompagné mon père qui est mort après un long cancer, je lui ai donné le pack premium de l'Église catholique, il s'est confessé, je lui ai donné la communion, je lui ai donné le sacrement des malades, l'indulgence plénière au moment de la mort. Je lui ai donné le pack plus, même que vous ne trouverez pas au Black Friday. Et il y a un moment où je me suis dit, mais tu t'agites. Et finalement, ce passage de la mort, ce saut, il va le faire seul. Tu ne peux pas le faire avec lui. Tu ne peux pas le faire avec lui. C'est souvent une chose qu'on entend chez les femmes qui ont accompagné un mari ou un enfant. C'est « je ne peux pas mourir avec lui ». Une épouse ou une mère, elle peut donner tout. Quand elle s'occupe d'un mari ou d'un enfant malade, elle peut changer ses draps plusieurs fois dans la journée, elle peut se réveiller à toutes les heures de la nuit au moindre mouvement. Mais une des grandes souffrances des endeuillés, et en particulier des femmes, je trouve ça, moi, c'est admirable, c'est beau, hein, c'est que souvent les femmes me disent « je ne peux pas mourir avec lui ». Je me souviens d'une maman comme ça qui a accompagné son fils de 20 ans, qui est mort d'un cancer, et il est mort dans ses bras, elle disait le chapelet, et elle me disait, ben, tu comprends, moi, j'aurais voulu... Une de mes souffrances, c'est que ce passage qu'il est en train de vivre, je ne peux pas le vivre avec lui. Les hommes, c'est plutôt... Le père me disait plutôt, ben, moi, j'aimerais mourir à sa place. Mais voilà. Et donc, dans ce mystère de la mort, on se rend compte, vous voyez, de cette solitude fondamentale, en fait. On l'éprouve dans le deuil. Déjà, le deuil est une espèce de... On éprouve de manière insupportable cette solitude. Mais je pense que dans notre propre mort, on a beau être accompagné, on meurt seul. C'est Fabienne Thibault, vous connaissez, qui chante Starmania, ça vous dit quelque chose? On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, mais au bout du compte, on se caresse, on se cajole, on se nanana, on se console, et au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Alors si cette chanson fait encore vibrer la ménagère de plus de 50 ans qui écoute Chérie FM, je pense qu'elle dit une réalité, que nous vivons tous, c'est devant la mort d'un... Voilà, on peut pas mourir avec. Vraiment, on est seul dans ce mystère de la mort. Ça m'a beaucoup impressionné d'accompagner des personnes qui mouraient que je ne connaissais pas. Je me souviens à Calcutta, notamment, un jour, on était deux prêtres, une religieuse, des volontaires, avec un jeune qui mourait du sida. On était là, mais en fait, se dire, mais en fait, ce passage, il le vit seul. On peut lui tenir la main, mais on peut pas mourir avec lui. Personne ne peut mourir avec nous, a priori. Je me souviens aussi, c'est un ami prêtre de Montlignon qui était comme un père pour moi, un prêtre ouvrier, qui avait une foi magnifique, qui disait le chapelet. On était autour de lui, mais on disait, ben voilà, ce passage, il va le vivre seul. Et c'est pour ça qu'il y a ce combat de l'agonie qui est normal. C'est normal de vivre un combat au moment de la mort. Je suis toujours un peu dubitatif quand on attend des morts héroïques, surtout chez les chrétiens, parce que pour nous, le modèle de celui qui meurt, c'est le Christ. Et l'agonie du Christ n'a pas été une agonie de héros grec, elle a plutôt été lamentable. Jésus s'est retrouvé dans un état lamentable, à demander à ses apôtres de veiller avec lui. Vous savez, il les a quand même réveillés trois fois pour leur dire « restez avec moi, quoi. Ne m'abandonnez pas, lui, le Fils de Dieu ». Et puis il a transpiré du sang et il a... Et même s'il était profondément uni à son père, il a même crié cette solitude, cet abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc, si le Christ a traversé cette solitude, il ne faut pas avoir peur de se dire que nous aussi, l'agonie n'est pas. Que l'agonie, ce n'est pas une sinécure. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, nous avons peur de la mort. Enfin, quand je dis peur, c'est plutôt une angoisse qu'elle crée en nous de savoir que nous sommes fragiles, que nous sommes vulnérables et que notre vie prendra fin et que nous mourrons seuls et que notre fortune, notre compte en banque, nos assurances vie ne nous permettront pas d'y échapper en fait. N'en déplaise aux transhumanistes qui dépensent des sommes astronomiques pour essayer de vivre encore plus longtemps. Aux États-Unis, j'ai vu ça, c'est terrible. Ils ont des régimes terribles, hein. Pas d'alcool, pas de viande, 6 jours du sport pour essayer de garder un corps d'homme de 40 ans alors qu'ils en ont 55. Enfin, voilà, c'est l'esclavage. Donc voilà, la mort, elle suscite une angoisse qui est normale, qui est normale en nous, cette peur de la mort. Et face à cette peur de la mort, et encore plus aujourd'hui, je pense, hein, dans notre société occidentale, parce que plus on l'élude, plus on la cache, cette réalité de la mort, plus elle est angoissante. J'ai la chance, grâce à Montlignon, de voyager pas mal dans le monde et de voir un peu le rapport à la mort qu'ont d'autres peuples, notamment en Afrique. La mort, elle est publique, elle n'est pas cachée, Parfois, c'est un peu trop. Hein. Là, j'ai un confrère qui revient du Togo, mais régulièrement, au Togo, on m'envoie des vidéos de vieilles dames dans des groupes de Montlignon qui sont dans leur cercueil un peu sèche. Et on me dit, ben voilà, est-ce que tu peux mettre ça sur le Facebook du sanctuaire pour prier pour elles ? Non, en France, ce serait un peu délicat de mettre des photos de Maccabée sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez, il y a un autre rapport à la mort. La mort, elle fait partie de la vie. Je me souviens à Brazzaville, on avait sorti le corps d'un homme qui était mort parce qu'il n'y avait plus de place dans la maison et autour, dans la rue, on chantait, on pleurait, on se lamentait, on priait, on mangeait. Enfin, mais la mort fait partie de la vie. Nous, malheureusement, comme on la cache, je pense que l'angoisse qu'elle suscite est encore plus importante et on ne sait plus réagir face à cette question de la mort. D'abord parce qu'on est très seul, on réagit de moins en moins en communauté, parce que la famille est de plus en plus fragile. Et moi, je me souviens, quand je vois des obsèques, des confrères qui célèbrent des obsèques avec 5-10 personnes. Et, Et c'est encore plus violent pour les personnes en deuil, parce que les personnes en deuil, elles se sentent tellement seules, elles souffrent. Mais comme on ne parle pas de la mort, voilà, elles souffrent, le deuil est de plus en plus anonyme. Donc voilà, ça participe d'une espèce d'angoisse de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que face à cette question de la mort, bah, l'homme va se poser des questions, va s'interroger. Alors vous avez évidemment ce que vont dire les matérialistes, les marxistes. Bah, quand t'es vivant, ce que disait déjà Épicure, et quand t'es mort. Donc c'est fini, tu disparais, il n'y a pas... Tu disparais. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les matérialistes n'ont pas pu se résoudre à la question de la mort. Donc on va chercher des subterfuges. Vous savez peut-être, les juifs, dans la foi primitive d'Israël, les juifs ne croyaient pas à une survie de l'âme après la mort. Je ne sais pas si vous le savez. Voilà, justement, la querelle entre les pharisiens et les sadducéens l'illustre bien. Les sadducéens ne croient pas à la résurrection de la chair. Et donc, pour les juifs, mais parce qu'ils ont une anthropologie très particulière, eh bien... L'homme est un composé de bazar, la chair, et de nefesh. Le nefesh, c'est le centre vital de la personne humaine, ce que les Grecs traduiront plus tard par la psyché, l'âme, même si ça reste quand même un peu différent. Et quand Dieu donne sa rouar, eh bien, la nefesh et le bazar donnent un être vivant debout. Et quand Dieu retire son souffle, eh bien, la nefesh se sépare du bazar, le bazar pourrit. Voilà, c'est le corps. Voilà. Et la nefesh tombe dans le Sheol. Le Sheol. Et le Sheol, ce n'est nullement un sort enviable. Les morts ne louent pas le Seigneur, dit le psaume. Ils ne louent pas le Seigneur, ceux qui descendent dans la fosse. Donc, les Juifs ont une vision du Sheol, qui est une espèce de trou dans lequel l'âme survit, mais, vous savez, dans un état comateux. Et il n'y a pas d'espérance pour l'âme. Je ne sais pas si vous le... Donc quand on parle du Sheol, ça ne... Personne... Enfin, donc il n'y a que les vivants qui louent le Seigneur, pour la foi primitive d'Israël. Et c'est pour ça que, si vous voulez continuer de vivre, eh bien, la bénédiction, c'est d'avoir des enfants. Parce que vous continuez de vivre par vos enfants. C'est eux qui vous continuent de vous faire vivre. Mais votre âme descend au Sheol. Ce qui est intéressant, c'est que cette solution ne va pas satisfaire la foi d'Israël. Et donc, progressivement, et c'est à travers des épreuves, notamment des grandes épreuves de son histoire, qu'Israël va découvrir que Dieu a deux qualités qui sont plutôt sympas, en fait. Les deux qualités divines de Dieu, c'est que Dieu est tout-puissant et qu'il est fidèle. Et ça, les Juifs vont le découvrir notamment au cœur d'une des épreuves les plus douloureuses de leur histoire, c'est la déportation à Babylone. Vous savez, c'est au VIe siècle. Le roi Sédécias, les fils du roi Sédécias sont égorgés devant lui, on crève les yeux du roi Sédécias. On emmène en déportation toute l'élite d'Israël, on rase le temple, et donc Israël n'a plus de roi, n'a plus de terre, n'a plus de temple. Finalement, Israël est voué à disparaître. Tout est fini, en fait. Et c'est à Babylone que les Juifs vont prendre conscience que Dieu n'habite pas seulement un temple, mais qu'il est partout, puisqu'il est le Créateur, et qu'il a tout créé à partir de rien. Et donc, c'est dans cet exil que les Juifs prennent conscience que Dieu est tout-puissant et qu'il est fidèle, et que s'il est tout-puissant et qu'il est fidèle, il ne peut pas abandonner son ami dans la mort. Et donc c'est progressivement, vous voyez, la foi d'Israël, elle va se désenvelopper. Ce n'est pas un tout monolithique qui tombe comme ça, c'est les Juifs vont découvrir dans cette amitié avec le Seigneur, dans les trahisons, vont découvrir tout au long de leur histoire que finalement, ils vont approfondir cette espérance, que finalement, Dieu est tout-puissant et qu'il est fidèle. Et donc, comme dit le psaume, tu ne peux pas abandonner mon âme. Tu ne peux pas abandonner ton ami à la mort. Et puis, il va s'ouvrir progressivement cette espérance confuse en la résurrection du peuple, et puis progressivement en la résurrection individuelle. Les bons ressusciteront, et puis même les mauvais ressusciteront. Et c'est tout ça pour vous dire que pour le peuple d'Israël, une des parades face au mystère de la mort, c'était de se dire, les enfants, la progéniture, le peuple. Alors, c'est pour ça que le célibat et la stérilité sont considérés comme une malédiction, parce que on vous oublie. Vous avez ensuite ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que il y a toujours, même si on se dit qu'il n'y a plus rien après la mort, on essaye toujours, malgré tout, de faire vivre celui qui est mort dans la mémoire. C'est déjà notre réflexe quand on est en deuil. Ça va, je ne vous endors pas trop là ? C'est une heure stratégique, 20h26. C'est presque la fin des infos. On va se dire, on va faire vivre celui qui est mort dans la mémoire. Et on le fait déjà de manière. C'est une des souffrances. Quand on est en deuil, une des manières d'essayer de lutter contre la mort de celui ou de celle qu'on a aimé, c'est de garder les choses en mémoire, des photos. Surtout, on ne veut pas l'oublier. On ne veut pas l'oublier. Et ça fait partie pourtant du temps du deuil, c'est qu'il y a des moments où il y a des choses qu'on va oublier, il y a des messages qu'on va effacer sans faire exprès, il y a des photos qu'on va perdre. C'est ce qu'on retrouve dans les grandes tombes du 19e siècle, avec, moi je me souviens de certains cimetières qui sont magnifiques à visiter, notamment à Gap, où est Cyprien, je visitais le cimetière. Et il y a une grande tombe du 19e à la gloire du docteur Machin. Mais le docteur Machin, un siècle après, tout le monde l'a oublié, en fait. Et vous voyez, finalement, les morts n'ont qu'une espérance de vie d'un siècle. Après, on les oublie aussi, en fait. Mais il y a une espèce de... Je vais me battre pour rester dans les mémoires. Pour rester dans les mémoires. C'est ma manière... Si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'homme essaye de survivre, en fait. Soit dans sa progéniture... soit dans la mémoire. Ensuite, il y a d'autres parades qu'on sent chez nos contemporains aujourd'hui qui sont un peu fascinés par les religions orientales telles que l'hindouisme ou le bouddhisme. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « je crois à la réincarnation ». Alors, c'est souvent très romantique, parce que les processus de réincarnation dans l'hindouisme, c'est un processus de purification. C'est intéressant. Enfin, moi, ça fait écho à la question du purgatoire, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le thème ce soir. Et c'est souvent très romantique parce que nos contemporains vous disent dans une autre vie, j'ai été un général d'Alexandre ou j'ai été une courtisane perse ou une courtisane sous Louis XV. C'est toujours mignon. Ils n'ont jamais été une chèvre ou une mouche. Vous voyez, il y a quelque chose de très romantique. Ce qui ne me satisfait pas dans la réincarnation, il y a plusieurs raisons, mais d'abord, une raison profondément humaine pour moi, je pense, c'est de se dire que je vis toute une vie, et à la fin, j'efface tout, et je recommence une autre vie. Et la question que je me pose, c'est dans ces cas-là, quel est le poids, quelle est l'importance des relations que j'ai tissées? Parce que, face au mystère de la mort, le premier cri, c'est pas tant de vouloir vivre toujours, le cri, c'est de dire... Je ne veux pas que l'amour, que le lien d'amour que j'ai tissé avec mes enfants, avec mes amis, avec mes parents, je ne veux pas que ce lien disparaisse. C'est ça le cri de l'homme face à la mort. C'est pas possible que ce soit fini. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est que nos contemporains, qui ne croient ni en Dieu, ni en diable, et voilà, souvent j'entends « mon grand-père est une étoile ». Alors souvent, c'est parce que peut-être qu'ils ont trop regardé le dessin animé Le Roi Lion. Dans Le Roi Lion, il y a Simba, le jeune lion qui est très gentil, qui doit reprendre son royaume et qui voit son défunt père dans les étoiles. Alors il y a quelque chose, souvent c'est ce que je dis à mes amis, tu as trop regardé Walt Disney, ton grand-père n'est pas une étoile, arrête de dire n'importe quoi. Mais pourtant, il y a quelque chose d'une intuition que je trouve très touchante dans Mon grand-père est une étoile, c'est qu'on n'a pas les mots. L'homme n'a pas les mots devant le mystère de la mort. On n'a pas, et même une explication théorique ou abstraite ne suffit pas, parce que ce mystère de la mort, c'est un mystère qui peut nous engloutir tout entier. C'est que face à ce mystère de la mort, il y a ce cri qui dit, Mon grand-père est une étoile, ça veut dire il n'est pas à ma hauteur, il n'est pas dans mon horizon, il est extrêmement lointain, parce qu'une étoile, c'est à des millions de kilomètres, il est insaisissable, et pourtant, il y a quelque chose qui brille encore, comme si, encore une fois, vous voyez, face à ce mystère de la mort, l'homme crie, c'est pas possible que ce soit terminé. Et c'est d'abord ce cri face au lien d'amour, se dire, ces liens d'amour que j'ai tissés, c'est pas possible que ce soit terminé. Et ce que je trouve très beau, c'est que dans toutes les cultures, il y a cette espèce de résistance au mystère de la mort, qui est un mystère, je vous disais, enfin, qui nous engloutit, quoi. Il y a pas de mystère plus grand que le mystère de la mort. Alors, s'il y en a un, c'est l'amour. Et c'est d'ailleurs dans le livre des Cantiques des Cantiques, je trouvais ça magnifique, enfin, l'amour est fort comme la mort. Mais encore dans le Cantique des Cantiques, vous avez deux réalités qui sont insaisissables, l'amour et la mort, mais qui sont. Le Cantique des Cantiques va mettre ces deux réalités au même niveau. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a une espèce d'attente dans le cœur de l'homme qui se dit c'est pas possible que ce soit terminé. Et là, je le découvre dans plusieurs cultures, dans la culture africaine, la culture des ancêtres, il y a cette espèce d'intuition que c'est pas possible que le lien avec les défunts soit rompu. Alors, on pourrait parler de la communion des singes, ça ne va pas être le propos ce soir, parce que vous l'avez déjà eu le mois dernier. Mais il y a cette espèce d'attente et de se dire, c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans les philosophies traditionnelles africaines, les morts ne sont pas morts. Un cri. Vous avez aussi la même chose. Vous avez la même chose dans les religions. Là, j'étais en Asie. En Asie, vous avez plein d'hôtels domestiques et vous brûlez de l'encens sur ces hôtels pour essayer de rejoindre vos défunts. Il y a même à Taïwan, vous brûlez des faux billets de banque pour que ces billets parviennent à vos défunts, pour que vos défunts puissent acheter une maison, une voiture, ou même acheter une autre maison pour la louer à un autre défunt. Alors, moi, ça me faisait sourire. Ça me faisait sourire, mais derrière, si vous voulez, ce que je trouve beau, c'est que dans toutes ces cultures, il y a cette intuition qu'on peut encore rejoindre les morts et qu'il y a une espèce de vie après la mort, même si cette vie, elle est souvent calée, elle est calquée, pardon, sur la vie ici-bas. C'est notre vie, mais un peu en mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait ça dans un film un peu loufoque avec Thierry Lhermitte, le docteur Apfelgluck. Je sais plus, enfin, je l'ai vu quand j'étais adolescent, j'ai complètement oublié, mais je trouvais ça un peu débile, parce que le brave docteur mourait et il se retrouvait au paradis, mais le paradis c'était une banlieue pavillonnaire où tous les pavillons étaient blancs, ils étaient tous habillés en blanc, ils étaient tous souriants, mais c'était ce monde en un peu mieux, quoi. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on essaye de l'imaginer. On essaye de l'imaginer. Alors, je vais revenir après à ces représentations parce qu'elles sont intéressantes. Elles nous disent quelque chose de l'aspiration du cœur de l'homme. Mais vous voyez, face à cette question de la mort, souvent ce qu'on nous dit, hein, c'est que qu'est-ce que vous en savez? Personne n'en est jamais revenu. Personne n'en est jamais revenu. Eh bien, si, justement, nous croyons que Jésus, le Sauveur, celui dont nous allons fêter la naissance à Noël, eh bien, nous croyons que Jésus, dans le mystère pascal, a traversé la mort. Et la première chose que nous croyons, c'est qu'il est. Alors, j'en profite parce que même si ce n'est pas le thème, mais c'est qu'il est descendu aux enfers. Il a vécu sa passion, il est mort, il est descendu aux enfers. Descendu aux enfers, j'en dis quelques mots là, mais c'est de dire que il est venu nous chercher dans ce mystère de la mort. Le Fils de Dieu, lui qui est la vie, avec un grand V, lui qui ne connaît pas la mort parce que la mort est ce qui vient abîmer la vie, eh bien lui, la vie n'a pas supprimé la mort, n'a pas fui la mort, n'a pas effacé la mort. La façon dont le Fils de Dieu nous a sauvés, c'est qu'il a plongé dans ce mystère de la mort. Et qu'il est mort lui-même, qu'il a traversé la mort, qu'il l'a prise sur lui. Il a prise sur lui et que dans cette descente aux enfers, il est venu nous chercher. Et que la première bonne nouvelle que porte ce mystère de la descente aux enfers, c'est que venant chercher l'homme au Shéol, nous ne sommes plus seuls dans la mort. Tout à l'heure, je vous disais que nous étions seuls, parce qu'effectivement, dans l'expérience humaine, il y a une espèce de solitude face à ce mystère de la mort, mais dans la foi, nous croyons que le Christ vient nous chercher dans ce moment de la mort, et qu'il est venu transformer ce moment de la mort. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, qui vient d'Alençon, hein, qui est née à Alençon, pas loin de Montlignon, donc c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Alençon et pas de Lisieux, qui disait, peu avant sa mort, dans sa maladie, elle disait, ce n'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est le bon Dieu. Et elle exprimait ainsi cette conscience profonde, mais qui a traversé l'histoire du christianisme, que la mort est le moment de la rencontre avec le Seigneur. Et qu'elle n'est pas, et que si celui que nous rencontrons, c'est notre Créateur et Sauveur, nous n'avons plus à craindre ce moment de la mort, puisque c'est le moment de la rencontre. C'est pas moi qui le... Enfin, vous l'avez dans... C'est saint Paul qui dit « Je désire m'en aller pour être avec le Christ ». C'est saint Ignace d'Antioche qui demande aux chrétiens de le laisser aller au martyr parce que c'est le moment où il sera vraiment un homme, c'est le moment où il va rencontrer la lumière. C'est sainte Thérèse d'Avila qui disait « Je désire mourir, je veux voir Dieu et pour voir Dieu, il faut mourir ». C'est saint François d'Assise qui disait « Loué sois-tu pour notre sœur la mort corporelle ». Parce que justement, ils mettent dans ce qu'ils disent, ils nous montrent que la mort a été transformée, qu'elle a changé. Elle a été transformée par le Christ. Elle est devenue le moment de la rencontre. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'il a traversé la mort, il a explosé les portes de la mort, il est monté aux cieux, et c'est voilà. Et là, c'est toute notre espérance. C'est que notre cité désormais se trouve dans les cieux. Elle n'est plus au Sheol. Donc notre espérance, elle est dans cette vie éternelle que le Seigneur nous donne. Si je vous dis ça, c'est parce que le cœur de notre foi, c'est ce mystère pascal. C'est ça qui a transformé en fait notre rapport profond à notre existence mortelle et vulnérable. Le Christ a vaincu la mort. L'amour a vaincu la mort. L'amour est plus fort que la mort. Ça, nous en avons la certitude depuis la résurrection du Christ. Et cette mort et cette résurrection, et c'est ce que disent d'ailleurs les épîtres de Paul, ou les épîtres de Pierre, ou l'épître aux Hébreux. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne passons plus notre vie en ayant peur de la mort. C'est ça c'est le cœur du message chrétien. Ce mystère de Pâques. Et donc, je regarde, ça va être trop long. Et donc, en nous ouvrant les portes de la mort, le Seigneur nous a donné accès à la vie éternelle. Et c'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ, ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est face à face. Ça, c'est la promesse, voilà, il le voit tel qu'il est. Ça, c'est saint Jean qui nous le dit dans sa première épître, nous le verrons tel qu'il est. Et saint Paul qui disait, je le verrai, je serai connu, je connaîtrai comme je suis connu et je le verrai, et nous le verrons face à face. La difficulté de la vie éternelle, on va commencer par ça, parce que l'enfer, c'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est la vie éternelle. Le Christ est venu pour nous donner la vie. Vous savez, c'est... des citations, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voilà. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, et si vous regardez l'évangile de saint Jean, le thème de la vie, il est partout. Il balise tout l'évangile de Jean, de la vie que le Seigneur est venu nous donner. Le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est le cœur de l'annonce du Christ, c'est qu'il vient nous donner la vie éternelle. Alors la difficulté avec cette vie éternelle, C'est que d'abord, il faut accepter une chose, c'est que nous n'arrivons pas à saisir ce qu'elle est. C'est ce que dit d'ailleurs saint Paul. Saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, je vais vous le trouver, ça, c'est où ça ? Ce que l'œil de 1 Corinthiens 2,9, ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. La difficulté, je pense que la première difficulté dans notre foi chrétienne, c'est que nous ne désirons pas assez la vie éternelle parce que nous ne savons pas trop ce qu'elle est et elle nous paraît un peu ennuyeuse. Et quand on parle du paradis, bien sûr qu'il y a, il y a des images. Alors, je vous parlais soit du culte des ancêtres qu'on retrouve en Afrique avec le village des ancêtres qui est ce village en un peu mieux, ou alors chez nos amis asiatiques dans ce culte des ancêtres aussi où on essaye de donner un peu mieux à nos chers défunts pour leur donner une vie confortable, leur permettre de s'acheter une voiture. Mais là, vous voyez, on a une vision très matérialiste des choses. Vous avez la même chose dans l'islam aussi, où le paradis est comparé à un jardin de délices et avec des joies qui sont très matérielles. La difficulté, je vous le redis, ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que l'homme ne peut pas imaginer, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Et alors d'abord, quand on parle de vie éternelle, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement envie parce que éternel, ça fait perpétuel. C'était Woody Allen, je crois, qui disait « la vie éternelle, c'est long, surtout à la fin ». Et effectivement, la vie éternelle, une vie perpétuelle, ça ne nous... c'est pas emballant. Sauf que le terme de vie éternelle ne dit pas quelque chose de la durée, il dit quelque chose de la qualité. La vie éternelle, c'est la vie en plénitude. La vie éternelle, c'est la vie en plénitude. Alors, qu'est-ce que cette vie en plénitude ? Et c'est Benoît XVI, dans Spécial Vie, qui se pose la question, parce qu'il se met... Il dit que cette vie éternelle, elle peut nous sembler bien ennuyeuse ou pas très attrayante. Et pourtant, il y a des moments dans nos vies où nous goûtons à cette vie éternelle. Où nous disons, là, c'est la vie pleine, là. C'est la vie pleine. On va commencer par le plus bas niveau. Qui de nous n'a pas frémi en écoutant, exulté en écoutant, en regardant à la radio un match de rugby entre la France et l'Angleterre à Twickenham et en voyant l'équipe de France écraser l'équipe d'Angleterre alors que les supporters chantent la Marseillaise et qu'on les entend dans le poste de télé. Là, il y a quelque chose. Où tous ces supporters chantent ensemble la Marseillaise, il y a quelque chose, je suis sûr, que quand ils rentrent du match, ils se disent, là, on a touché à quelque chose de grand. Ça dépend pour qui. Pas pour les Anglais, mais ça... Justement, si en plus, ça les rend tristes. Alors, il y a d'autres moments aussi. Moi, j'avais fait, vous avez peut-être fait l'expérience, un concert, je me souviens d'une fois, on m'avait emmené dans un concert. Et donc, il y a tout un stade, et le chanteur chante, et les gens chantent avec lui, et il se passe quelque chose de... On sent qu'il y a une communion. C'est le terme que je voulais employer depuis le début. Mais on se dit, tiens, et ces personnes-là se disent, ça remplit ma soirée. Elles aimeraient que ce concert dure toute la vie, en fait. Ce moment où on se dit, tiens, on chante tous ensemble autour de ce chanteur. Si vous voulez, c'est ces petits moments... Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'homme est fait pour la communion. Et qu'il y a des moments dans nos vies où on ressent cette communion. Il y a d'autres moments où on ressent cette communion. Les moments des repas familiaux, alors qu'ils ne sont pas toujours faciles et pas toujours simples à gérer avec les belles-filles, les belles-mères, tout ça, mais ou les filles qui sont insupportables. Mais il y a des moments où dans ces repas, le repas, évidemment, n'est qu'un prétexte. Le repas n'est qu'un prétexte. Quand on parle des festins de viande grasse et de vin capiteux dans la Bible, c'est pas d'abord pour nous dire que le Seigneur va nous servir un bon barbecue et qu'on va boire des très bons vins, mais il y a quelque chose dans ces festins des noces, dans cette montagne du Seigneur, avec viande grasse et vin capiteux, tout ça, le repas est un prétexte pour un moment de communion. Je vois quand de temps en temps je me retrouve avec des frères prêtres, des amis, et qu'on va manger une bonne côte de bœuf, et qu'on casse notre tirelire pour une bonne côte de bœuf et du bon vin, tout ça c'est un prétexte, mais ce qui est important pour nous c'est de passer une bonne soirée ensemble, et de vivre ce moment de communion, et on se dit, là c'est la vie là. Il y a d'autres moments de communion, je pense que le moment de la venue au monde d'un enfant, au moment où l'enfant, où les douleurs de l'enfantement se terminent, je pense que quand une mère tient sur son sein cet enfant qu'elle connaît de manière invisible et qu'elle tient enfin, je pense qu'il y a un moment de communion qui est incommunicable en fait, une espèce de joie. Vous pouvez m'en parler à moi comme prêtre, je peux l'écouter, mais si on ne l'a pas vécu, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est. Je pense aussi à des moments de communion beaucoup plus simples, quand vous êtes avec votre grand-mère qui vous a aimé, qui vous aime, juste une présence silencieuse, elle a Alzheimer, elle est peut-être atteinte d'Alzheimer, mais il y a ce moment d'amour, ce moment de réciprocité, ce moment de communion. Donc si vous voulez, je pense que ce qui nous dit le mieux ce qu'est la vie éternelle, c'est ces moments dans nos vies où nous touchons à quelque chose et où nous nous disons au plus profond, j'aimerais que ça se termine jamais en fait. Ça peut être le jour d'un mariage, ça peut être... on peut même la vivre en accompagnant un proche qui est en train de mourir. Moi je me souviens de... Il y a des moments comme ça, là il y a une jeune femme dont j'ai célébré les obsèques de son mari dans le village de Montlignon, des gens très 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 simples. Et lui, il a fait un chemin de... Enfin voilà, parce qu'on s'est rencontrés, il a fait un chemin de foi, il a... mais très simple, hein. Et puis un peu avant sa mort, il était en soins palliatifs, et je le pousse un peu, et je lui dis, parce que c'était un taiseux, hein, les percherons, ils disent pas beaucoup les choses. Je lui dis, mais il faut peut-être que vous disiez à votre femme et à votre fille que vous les aimez. Ah oui, vous croyez? Ouais. Donc je lui dis, allez, on leur dit. Et donc elles étaient là. Et tout d'un coup, il a dit à sa femme, je t'aime, sa fille, je t'aime. Et moi, il a terminé, il m'a dit, je vous aime. Il était sur sa lancée. Mais sa femme, qui vit un veuvage douloureux, elle me dit, ce moment-là, c'était comme un moment d'éternité. Vous voyez, ce moment, un moment où l'amour a été dit, quoi, où il a été vécu et profondément, même dans l'épreuve. Et donc, il y a quelque chose... Vous voyez, on perçoit dans ces moments-là quelque chose de grand et de beau. Où là, c'est la vérité de la vie qui se joue. Je me souviens aussi d'un homme qui, pareil, peu avant sa mort, qui était un peu fâché parce qu'il était en soins palliatifs, il ne voulait pas quitter sa maison, mais ses enfants, là, ben, ils ne pouvaient pas rester chez lui. Et puis, il était fâché, il était bougon. Et puis, on discute, et puis... Ses enfants se retrouvent devant son... Donc je lui dis, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Et là, il commence à râler. Je lui dis, non, mais qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus profond? Il leur a dit, je ne veux pas vous quitter, je vous aime. Vous voyez, ces moments-là, quand on en est témoin, ça vous donne les larmes aux yeux, parce qu'il y a quelque chose de l'amour où vous dites, ça, c'est des moments... Ça, c'est la vie, en fait. Et moi, je pense que la vie est... Je pense que dans notre recherche de ce qu'est la vie éternelle, on a des images de saints qui jouent sur des... Qui joue de la cithare ou de la lyre sur des nuages, c'est pas du tout intéressant, ça. C'est pas ça qui nous fait envie. Mais de voir dans nos histoires quels sont ces moments, un mariage, un moment où une flamme se partage, la naissance d'un enfant. Mais il y a des moments dans nos vies où nous aimerions tellement retenir ce moment et qu'il soit perpétuel, qu'il soit éternel, qu'il reste, quoi. Un peu comme quand vous regardez un film, que le film vous plaît, il y a une intrigue. Et vous voudriez que le film ne s'arrête jamais. Ça arrive, ça, quand un film est très, très bon. Je le vois avec les jeunes, quand ils regardent la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour eux, quelle déception quand tout se termine. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que ça nous dit, qui nous est dit de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas d'abord quelque chose. La vie éternelle, pour les chrétiens, pour nous, c'est quelqu'un. C'est Jésus lui-même, enfin c'est Jésus qui nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi Dieu le Père, et celui que tu as envoyé, le Christ. le soir du jeudi saint. La vie éternelle, c'est une connaissance. Mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle, parce que vous savez, la connaissance chez les juifs, ce n'est pas une connaissance théorique, la connaissance chez les juifs, c'est une connaissance d'amitié. Et donc la vie éternelle, en fait, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Parce que la vie éternelle, pour nous, c'est quelqu'un. La vie éternelle, c'est communion. C'est la communion avec le Seigneur, c'est la communion avec, avec tous les saints du ciel. Et c'est d'ailleurs ce que dit Jésus, vous savez, c'est pour ça qu'elle est, on peut la toucher du doigt, mais elle reste insaisissable, mais c'est cette communion au Seigneur, et c'est ce que dit Jésus au bon larron le soir du, le vendredi saint. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui compte, c'est pas dans le paradis. Ce qui compte fondamentalement dans ce que dit Jésus au bon larron, c'est avec moi. Donc le ciel, c'est être avec le Christ. Je désire m'en aller pour être avec le Christ, dit saint Paul. Voilà. Et ça, c'est le cadeau que le Seigneur vient nous offrir par sa mort et sa résurrection et son ascension dans tout le mystère pascal. C'est cette vie éternelle qu'il vient nous donner. Alors, l'autre pan de cette vie éternelle, c'est que cette vie éternelle, elle est déjà commencée. Elle est déjà commencée aujourd'hui par le baptême, parce que par le baptême, nous avons reçu les arts de la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons déjà reçue. Dans la vie sacramentelle, nous vivons déjà de cette vie éternelle. Mais cette vie éternelle, elle n'est pas encore accomplie, elle n'est pas encore... nous attendons son accomplissement dans la gloire. Et aujourd'hui, elle se vit déjà, elle se vit, mais au travers des épreuves, et elle se vit dans les combats. Vous voyez, je pense souvent que les martyrs plantent, au moment de leur... Les martyrs se plantent cette vie éternelle dans le monde. Je pense à Mère Teresa à Calcutta. Je pense que Mère Teresa, elle a mis l'amour à Calcutta. Et je pense que notre vocation de chrétien, c'est de planter cette vie éternelle là où nous sommes, dans les épreuves, les difficultés de ce monde, dès aujourd'hui, parce que la vie éternelle, c'est l'amour. Et l'accomplissement de cette vie éternelle, eh bien, c'est la promesse de cette rencontre face à face avec le Seigneur, de cette contemplation face à face avec lui, et de cette béatitude que nous ne pouvons pas, dont nous pouvons que nous pouvons un peu toucher du doigt ici-bas, mais que nous ne pouvons pas imaginer. Le cœur de l'homme enfin comblé. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit saint Augustin, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et ça, c'est le cadeau, c'est le don que le Seigneur veut faire à tous les hommes. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour le sauver. C'est ce que dit aussi... C'est ce que dit saint Paul, Dieu veut sauver tous les hommes. À tous les hommes, il veut faire partager sa gloire. Voilà. Ça, si vous voulez, je vous en parle. Alors, on pourra peut-être revenir là-dessus un peu plus tard, s'il y a des questions. Mais c'est notre vocation profonde, c'est nous sommes faits pour le ciel, en fait. Nous avons été créés pour ça. Tout homme a été créé pour capable de Dieu, et avec ce désir de Dieu en lui. Et pour contempler le Seigneur. D'ailleurs, c'est intéressant parce que donc c'est notre vocation. Nous avons cette vocation à la béatitude. D'ailleurs, si on part de l'homme lui-même, l'homme cherche profondément le bonheur. Il y a dans l'homme un désir profond d'être heureux. C'est ce qui fait qu'on agit, hein. C'est le principe de toutes nos actions. C'est chercher le bonheur. Même quand nous péchons, nous cherchons un bonheur, mais qui est un faux bonheur. Nous mettons notre bonheur dans l'argent, nous mettons notre bonheur dans le pouvoir, nous mettons notre bonheur dans le sexe, mais on se trompe. Enfin, le péché, d'ailleurs, c'est... Je ne sais pas si vous le savez, mais le terme péché, c'est rater sa cible. Ça vient de... En hébreu, la racine, c'est rater sa cible. On est fait pour le bonheur et on choisit un autre bonheur. Et c'est intéressant parce que saint Thomas d'Aquin va se poser, va faire une petite enquête sur le bonheur, en se disant, dans le cœur de l'homme, il y a cette soif de bonheur. Et après, Aristote l'avait fait avant lui, mais il va se poser la question, qu'est-ce qui peut combler cette soif de bonheur dans le cœur de l'homme? Et il commence par l'argent, ou les biens matériels. Il dit, oui, mais les biens matériels, c'est bien, c'est un moyen, mais ils ne peuvent jamais combler le cœur de l'homme. Il va chercher ensuite le travail. Le travail, bien sûr, c'est aussi un moyen. Mais le travail ne peut jamais combler le cœur de l'homme. Il est un moyen. Il cherche ensuite la gloire. Oui, mais la gloire, c'est les autres qui vont vous donner la gloire. Mais cette gloire, elle ne comble pas le cœur profond de l'homme, la recherche profonde de bonheur qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et comme ça, il passe en revue, après Aristote, tous les moyens de chercher le bonheur. Ensuite, ça va être les plaisirs. Il va dire, oui, mais les plaisirs, souvent chez l'homme, c'est répétitif, il s'ennuie, il a toujours besoin de plus, et les plaisirs ne comblent pas la soif de bonheur qu'il y a dans le cœur de l'homme. La santé, bien sûr que la santé, c'est important, mais la santé, c'est pas ça qui comble la soif qui est profonde inscrite dans le cœur de l'homme. La santé, ensuite, la vertu, le fait d'être vertueux, oui, bien sûr, ça rend l'homme heureux d'être vertueux, mais ça ne comble pas sa soif. Et il va terminer par l'amitié. Évidemment que l'amitié est l'amour. Mais vous le voyez bien, l'amour ne comble pas, l'amour humain ne comble pas complètement le cœur de l'homme. D'ailleurs, c'est une des impasses souvent chez les jeunes qui se disent « Mais l'autre va combler tous mes désirs de bonheur. » C'est pas vrai. Mon conjoint ne comble pas ma soif de bonheur. C'est pas possible. C'est pas possible. Mon conjoint, c'est un être particulier. En plus, il est limité, il a plein de défauts. Enfin, je ne vais pas vous interroger, dans nos soeurs, dans nos frères de communauté, c'est pareil. Le jour où ils viennent combler notre soif de bonheur. Et donc, vous voyez, et donc après toute cette enquête, Saint Thomas dit, il n'y a que l'infini qui peut combler le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, il a un désir. Dans le cœur de l'homme, il y a deux facultés qui ont une soif d'infini. Il y a son intelligence qui veut toujours comprendre. Pourquoi ? Et tant que son intelligence ne comprend pas, elle ne goûte pas au repos. Donc, une recherche de vérité infinie dans la faculté intellectuelle de l'homme. Et dans sa volonté, dans son cœur, une recherche d'amour infini. Et saint Thomas dit, il n'y a qu'un être infini qui peut combler cette soif d'infini. Et cet être infini, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut combler la soif de bonheur qu'il y a dans le cœur de l'homme. Tout le reste est bon, hein, s'il est remis à sa place dans cette recherche de bonheur, mais il n'y a que Dieu qui peut combler la soif de bonheur dans le cœur de l'homme. Ça, c'est, vous voyez, c'est l'enquête de saint Thomas dans l'autre sens, en partant du cœur de l'homme. Voilà. Pour Aristote, c'était la contemplation. Il s'est arrêté à la contemplation en disant, la contemplation, c'est déjà bien. Et pour nous, cette soif de bonheur, que Dieu peut combler, il n'y a que dans la vision de Dieu face à face, la communion directe avec lui, dans un regard face à face avec lui, que cette soif peut être comblée. Et c'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila disait « Je veux voir Dieu, mais pour voir Dieu, il faut mourir. » Il n'y a que la vision de Dieu qui peut combler le cœur de l'homme, c'est ce que dit... Le ciel est la fin ultime de la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Et c'est ce que dit encore... c'est la vision de l'essence divine. Mais voilà. À cause de sa transcendance, Dieu ne peut être vu tel qu'il est que lorsqu'il ouvre lui-même son mystère à la contemplation immédiate de l'homme et qu'il lui en donne la capacité. Cette contemplation de Dieu dans sa gloire céleste est appelée par l'Église vision béatifique. Et c'est saint Cyprien qui écrivait « Quelle ne sera pas ta gloire et ton bonheur, être admis à voir Dieu, avoir l'honneur de participer aux joies du salut et de la lumière éternelle dans la compagnie du Christ, le Seigneur ton Dieu, jouir au royaume des cieux dans la compagnie des justes et des amis de Dieu, les joies de l'immortalité acquises. » Donc ça, c'est la vocation fondamentale, la vocation de l'homme de voir Dieu. Malheureusement, l'homme est capable de contrarier cette vocation, et ça va être la deuxième partie de mon propos. Si vous voulez, ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que l'homme est créé pour Dieu. Vous voyez, ne serait-ce que cette capacité, ce désir de voir Dieu, cette aspiration, c'est Dieu qui l'a mis dans le cœur de l'homme. Ce qu'écrivait saint Augustin quand il disait que l'homme est capax Dei, l'homme est capable de Dieu. Il y a en lui cette recherche de bonheur définitif et finalement qui est une recherche de Dieu, même implicite. Mais voilà, l'homme est fait pour voir Dieu et pour partager sa gloire. Mais l'homme a aussi une liberté et il est capable de refuser ce don que Dieu, enfin, cette proposition que Dieu lui fait. Et nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de le choisir librement de l'aimer. De l'aimer. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu si nous ne choisissons pas de l'aimer. Et c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Eh bien, le péché, c'est ce qui vient abîmer cet amour. Et Jésus nous avertit que si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères, eh bien, il nous avertit de cette possibilité de la séparation avec lui. Voilà. Alors, peut-être quelques mots sur l'enfer. Vous avez peut-être entendu la chanson de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis ». Malheureusement, elle a fait beaucoup de mal parce qu'on l'a pris pour un cantique d'église. Et je rappelle que Michel Polnareff n'était pas expert au Concile Vatican II. Et que le Concile... si vous voulez, ce dogme de l'enfer, l'Église le tient toujours depuis le Christ lui-même, d'ailleurs. Jean-Paul II y a consacré des catéchèses. Benoît XVI en a reparlé plusieurs fois, notamment dans son encyclique Spe Salvi. Et c'est, dans Spe Salvi, il écrit ceci. C'est très fort, hein. Dans Spe Salvi, il écrit... Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif. Sa vie est devant le juge. Son choix, qui au cours de toute sa vie a pris forme, peut avoir diverses caractéristiques. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge. Des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laisse entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de rémédiable et la destruction du bien serait irrévocable. C'est cela qu'on indique par le mot « enfer ». Et je tiens à le rappeler, mais celui qui parle le plus de l'enfer, c'est le Christ lui-même. C'est Jésus lui-même. Alors bien sûr que dans la tradition... Déjà, dans l'Ancien Testament, vous avez quand même des mises en garde de Yahvé. Je prends, dans le Deutéronome, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et Yahvé continue, choisis la vie. Choisis la vie. Dans le Siracide, le nom maudit des pécheurs s'efface. Ou alors chez le prophète Daniel, Daniel 12:2, un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'aurore éternelle. Donc, si vous voulez, on parle de l'enfer. Jean-Baptiste, d'ailleurs, en parle en saint Matthieu. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son air. C'est Jean-Baptiste qui parle du Messie, qui va être celui qui va juger. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Mais vous l'avez ensuite, et alors c'est Jésus qui parle le plus de l'enfer dans la prédication de Jésus, Matthieu 7:13, « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. » Matthieu 13, « Le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'asseyent, recueille dans des paniers ce qu'il y a de bon et rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Matthieu 25. Vous savez, la séparation des brebis et des boucs. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec les anges et qu'il séparera les hommes les uns des autres, les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite, et il dira à ceux de gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, dans le feu éternel. L'Apocalypse aussi, les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc, la révélation nous parle de cette possibilité dramatique de refuser l'invitation de Dieu. Et si vous voulez, l'enfer, les catholiques ne sont pas comme... on n'est pas comme les calvinistes. Par exemple, chez les calvinistes, vous avez une prédisposition, enfin, vous êtes prédisposé, prédestiné. Non, là, nous sommes, notre prédestination positive, c'est que Dieu veut nous sauver. Mais il y a cette possibilité radicale de l'homme de refuser le salut que Dieu lui donne. Et l'enfer, ce n'est pas d'abord, si vous voulez, toute cette vision, là aussi, ce n'est pas d'abord quelque chose... tout cet imaginaire des diablotins qui nous piquent avec le feu qui brûle et toutes ces représentations, notamment celle-ci, qui donne quand même le vertige à certaines. Mais l'enfer, le drame de l'enfer, c'est la solitude. C'est ce que dit Ratzinger dans Foi chrétienne hier et aujourd'hui. En enfer, il n'y a plus personne pour prononcer notre nom. Donc la solitude, l'enfer, ce n'est pas chaud. L'enfer, c'est froid. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler du monde de Narnia, de Lewis. Ils en ont fait des films. Et justement, dans sa représentation de la méchante, là, j'avais vu ça il y a très longtemps, mais en fait, qui est une représentation de l'enfer, en fait, c'est profondément cynique, profondément égoïste, profondément froid, en fait. Et moi, je trouve que le mot enfer, en français, dit bien ce qu'est l'enfer. L'enfer, c'est l'enfermement sur moi-même. Donc l'enfer, c'est le refus de l'amour. C'est le refus d'aimer. Et on en fait l'expérience quand nous sommes enfermés dans notre péché ou dans notre haine ou notre colère. On en fait déjà l'expérience quand on est petit dans les cours de récréation et que vous avez joué avec vos camarades de classe et que vos camarades de classe, tout d'un coup, vous êtes fâchés avec eux, vous boudez, eux continuent de jouer et l'enfant qui boude, il fait cette expérience de l'auto-exclusion, en fait. Parce que l'enfer, c'est ça, c'est je m'auto-exclus de cette invitation de Dieu, je m'auto-exclus de la communion. Pourtant, je suis fait pour aller jouer avec les autres enfants, j'ai envie de jouer avec eux, mais je refuse et je m'enferme dans ce refus. Je m'enferme dans ce refus. Donc, si vous voulez, c'est pas... Le catéchisme de l'Église catholique parle de cette auto-exclusion que Dieu sanctionne. Il ne la sanctionne pas en disant « Bon, c'est la fin de la récré, c'est fini, t'as choisi. » C'est qu'en enfer, les damnés refusent Dieu en permanence. C'est une haine permanente et perpétuelle. C'est une obstination. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas juste « Ah ben zut, je suis là, c'est pas ce que je voulais. » Alors bien sûr qu'il y a cette colère et cette haine de Dieu parce que de la conséquence de l'auto-exclusion, mais c'est un refus permanent. Je trouve que l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est éloquente quand elle dit que l'enfer, c'est une porte fermée de l'intérieur. On ne veut surtout pas que la lumière y entre, parce qu'on s'est enfermé dans le mal. Et autant, vous voyez, la joie du ciel, on pouvait la toucher du doigt de temps en temps, on peut la toucher du doigt de temps en temps dans nos vies, autant la souffrance de l'enfer, on peut voir ce qu'elle est. La tradition catholique parle de deux peines, deux souffrances en enfer. Elle parle d'abord de la peine du don, qui est la peine de la damnation. La peine de la damnation, c'est cette peine de la séparation de Dieu. Je suis fait pour aimer Dieu, je suis fait pour le voir, j'ai en moi ce désir de bonheur infini et que seul Dieu peut satisfaire, peut combler, et pourtant je refuse de tout mon être. Et donc la souffrance du damné, c'est la souffrance d'un être déchiré, parce qu'il est fait fondamentalement pour aimer Dieu et qu'il s'enferme dans sa volonté, dans sa souffrance. Mais que ce désir fondamental de Dieu est encore plus profond. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a soif de Dieu et il le refuse. Et ça, c'est la première souffrance du damné, elle est terrible, c'est la souffrance de l'être déchiré. La souffrance de Lucifer, la souffrance de Satan, c'est qu'il est fait pour aimer Dieu et qu'il refuse de tout son être. Et donc, il y a quelque chose en lui qui est... c'est pas schizophrène, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'il y a son être profond, c'est qu'en Dieu seul est sa joie, et c'est un refus. Vous voyez, on l'expérimente tous quand on fait la gueule. Non ? Quand on s'enferme dans la colère ou dans le refus de pardonner, on l'expérimente tous. C'est-à-dire que même quand on sait dans notre cœur qu'on ne peut pas continuer à haïr, c'est pas possible. Je pense comme ça à un ami de mon Légion dont les filles ont été tuées lors des attentats du Bataclan, à une terrasse de café. Il me dit qu'il est en colère, il me dit qu'il hait les assassins de sa fille, on comprend. De ses filles, on comprend. Et en même temps, il me dit, mais tu vois, je ne peux pas m'enfermer dans cette haine. Elle va me détruire cette haine. Donc, il me dit, je vois bien qu'il faut que je pardonne. Donc, du coup, je demande au Seigneur de pardonner parce que moi, je n'en suis pas capable. Ben, très bien, c'est le chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on est... Et donc, le damné, sa première souffrance, c'est qu'il s'est figé, mais il s'est figé de manière perpétuelle et à chaque instant de sa vie, il refuse Dieu. La deuxième souffrance du damné, c'est qu'il est esclave de ceux qu'il a pris pour Dieu. C'est-à-dire qu'il est esclave de tous ses biens qui ont pris la place de Dieu dans sa vie. Et il sent cet esclave, c'est ce qu'on appelle la peine du sens. La peine du sens, c'est pas, encore une fois, c'est pas Dieu qui fait souffrir. Et j'espère que vous le découvrirez dans le purgatoire, le feu du purgatoire, c'est surtout pas... Dieu d'abord nous veut au ciel encore plus que nous le voulons, comme le dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le damné qui se fait souffrir, en fait. Vous avez des très belles images dans Dante, que le damné se dévore lui-même, quoi. Donc, cette deuxième souffrance, c'est les liens, c'est tous ces esclavages auxquels il est soumis, auxquels il s'est soumis, en fait. Toutes ces fausses idoles qui sont des petits maîtres, en fait. Et cette... j'irai pas beaucoup plus loin, mais... Alors, si on peut... Il y a d'autres souffrances dont on peut parler. Le damné, il est... Comme le démon, il est allergique au réel. Parce que le réel, c'est ce qui résiste à sa volonté de puissance. Parce que le damné, il se veut tout puissant. Il se veut tout puissant. Et il voit bien qu'il n'est pas tout puissant. Que le monde, que les choses lui résistent. Et ça, c'est une autre souffrance. Vous savez, comme quand on fait un caprice et qu'on voudrait que les choses soient comme ça, et que les choses ne sont pas comme on voudrait, il y a une espèce de... si on lâche pas et si à un moment on se dit pas, bon, bah, le monde, voilà, ainsi sont les choses, et bien on se fait souffrir perpétuellement, en fait. Il y a quelque chose de... Ouais, une volonté de puissance chez le damné. Alors, ensuite, je vais quand même vous parler du feu. Le feu de l'enfer, c'est la même chose que le feu du purgatoire, c'est la même chose que le feu du ciel, en fait. Mais ce feu, il a trois effets différents. Ce feu, c'est le Seigneur. Ce feu, c'est l'Esprit Saint. Vous savez, c'est comme ça qu'il se manifeste à la Pentecôte. Ce feu, c'est le buisson ardent qui brûle sans consumer. Ce feu, vous l'avez dans la représentation parfois de saints. Il y a des très belles, par exemple, Saint François Xavier, missionnaire. Vous voyez, dans sa cage, au niveau de sa cage thoracique, il y a des flammes qui sortent. C'est l'amour ardent de Saint François Xavier pour Dieu. Et en fait, c'est le même feu. C'est l'amour de Dieu. Mais ce feu, il a des effets différents. Au ciel, c'est un feu qui transfigure, qui vivifie, qui illumine cet amour de Dieu. Au purgatoire, c'est un feu qui transforme encore, qui creuse le désir. Et en enfer, ce feu, il brûle parce que c'est un feu qu'on refuse. On refuse cet amour de Dieu. Et donc l'amour de Dieu est brûlant parce que j'en veux pas, en fait. Voilà. Alors, je vais quand même... terminé pour l'enfer sur une note positive. Vous savez, autant l'Église, par la canonisation, nous dit qui est au ciel. tous les bienheureux, là, on a encore les bienheureux martyrs du STO qui ont été béatifiés samedi dernier à Paris, c'était très émouvant. Ben, quand elle béatifie, vous êtes d'accord que cette célébration, c'est pas comme un hommage au Panthéon, on ne fait pas juste mémoire du passé, bien sûr qu'on fait mémoire du courage de ces hommes, mais pour nous, ils sont vivants. C'est d'abord ça que rappelle une béatification. C'est que ces hommes, ils sont vivants et qu'on peut les prier. Quand on béatifie des bienheureux, c'est de dire que, bah, oui, l'Église autorise le culte, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à eux et leur demander d'intercéder pour nous parce qu'ils sont vivants. Et donc, dans la canonisation, dans la béatification, l'Église nous dit ils sont au ciel, ils intercèdent pour nous. Ils prient pour nous, tous ces saints du ciel. L'Église n'a jamais procédé à de canonisation négative. Elle n'a jamais dit « un tel est en enfer ». Elle le dit pour le démon, Jésus nous dit pour le démon et ses anges. Jésus nous le dit, mais l'Église n'a jamais mis personne en enfer. Notamment, même Judas. Même si Judas, il y a quand même des affirmations très fortes dans le Nouveau Testament qui font poser question. Mais l'Église n'a jamais dit qui est en enfer parce que notre but, et parce que l'Église nous rappelle toujours qu'il ne faut jamais, jamais, jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Et donc, il nous est permis de prier, et de prier pour demander au Seigneur justement le salut de ceux qui meurent séparés de lui. Et c'est ce qu'on voit notamment dans la vie de Sainte Faustine. Moi, j'ai découvert ça dans son journal, comment Jésus lui demande de prier pour la conversion de ceux qui meurent. Et si Jésus lui demande, bien sûr que Jésus peut sauver lui-même, c'est lui qui sauve. Mais ce qui est beau, c'est que le Seigneur veut nous associer à son œuvre de salut et que ça fait partie aussi de notre mission de prier pour les pécheurs. En nous rappelant que nous-mêmes, nous en sommes. Parce qu'il y aurait un risque dans le ciel et l'enfer, c'est de chercher à mettre les gens dans des cases. Mais quand Jésus nous parle de l'enfer, c'est d'abord à nous qu'il parle. Et c'est d'abord à nous qu'il rappelle cette possibilité que nous avons de nous exclure de son invitation. La parabole du fils prodigue, c'est ça. Quand il nous dit comme il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Vous savez, avec le jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit que me manque-t-il pour avoir la vie éternelle, tu connais les commandements. Oui, je le fais depuis que je suis jeune. Très bien, une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. À cette parole, le pauvre s'en alla tout triste, et Jésus le regarde comme il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et il répète, une deuxième fois, mes enfants, comme il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et là, les apôtres se disent, mais qui peut être sauvé? Et c'est cette parole qui, je trouve que c'est la clé de tout, de toute la question de notre salut. À Dieu, à l'homme impossible, à Dieu, tout est possible. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est que la question de l'enfer ne soit pas... Je pense qu'il ne faut plus la poser en question de... Il ne faut plus la poser... Enfin, malheureusement, on en a fait une pastorale terroriste. On a essayé de faire aimer le bon Dieu en menaçant d'en faire les chrétiens ou les moins croyants, mais c'est pas comme ça que vous allez leur faire aimer le bon Dieu. C'est pas en faisant peur qu'on va faire aimer quelqu'un, vous êtes d'accord? En revanche, je pense qu'il faut réaffirmer cette possibilité de l'enfer comme d'une responsabilité, pas quelque chose qui doit nous mettre dans la terreur, mais de travailler à notre salut avec crainte, c'est-à-dire que ultimement cette question de l'enfer, elle doit nous faire dire « Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Si vous voulez, je trouve que c'est toute la liturgie de l'Église qui nous l'apprend ça. Avant de communier, on ne se lamente pas pour dire on est des pauvres pécheurs, on est mauvais, on est méchants. Le but, ce n'est pas de nous culpabiliser, c'est de nous faire prendre conscience que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et c'est là tout le salut que vient nous donner Jésus, c'est « Seigneur, sauve-moi ». Moi, je n'y arrive pas. Je trouve qu'une des figures les plus éclairantes sur cette question-là, c'est le bon larron. Et c'est pour moi, c'est la figure d'espérance. Le bon larron, il y a deux choses qui sont admirables. C'est sur la croix, au lieu d'insulter Jésus comme l'autre et lui dire « Sauve-toi toi-même et nous avec », il reconnaît que ce qui lui arrive est juste. Et la deuxième chose que je trouve magnifique chez le bon larron, c'est qu'il n'exige rien de Jésus. Il lui dit juste « Souviens-toi de moi ». Il lui dit pas « Prends-moi avec toi, garde-moi ». Il lui dit juste « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et la réponse de Jésus, elle est, enfin, c'est toute la lumière du salut que le Christ vient nous donner. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est, si vous voulez, c'est juste nous rappeler que par nous-mêmes, nous ne méritons rien. Et que nous avons besoin d'être sauvés. C'est ce que nous fêtons à Noël, d'ailleurs, c'est ce temps de l'Avent aussi, hein, ce cri de l'Ancien Testament, ce cri de l'Église aujourd'hui, Seigneur, sauve-nous. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Et c'est une invitation à l'humilité, mais pas à la fausse humilité, à se dire, bah, Seigneur, ouais, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc c'est une invitation à la confiance. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on peut reprêcher sur l'enfer, non pas de faire peur, de dire oui, c'est une possibilité, on peut refuser, mais surtout de dire, bah, surtout, alors il y a ça, une invitation à la confiance, et la deuxième invitation, les pauvres. Si nous ne voulons pas craindre le juge au moment où nous le rencontrerons, eh bien, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ce qui est très beau dans ce passage de l'Évangile, dans le jugement dernier, vous savez, quand Jésus dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et en prison, et vous m'avez vêtu, vous m'avez visité. » Quand est-ce que nous avons fait ça? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que je trouve très beau, c'est que vous avez d'un côté Jésus comme juge et qui vient avec ses anges, les anges dans la gloire. Mais en fait, Jésus, vous le retrouvez comme juge et dans les pauvres. Et je pense que ça doit nous pousser à la fréquentation des pauvres. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas avoir peur du juge, il faut l'avoir fréquenté et là où dans les pauvres, nous le fréquenterons en fait. Nous le connaîtrons. Et je pense que c'est aussi un appel justement à quelle est la place des pauvres dans ma vie. S'il n'y a pas de place pour les pauvres dans ma vie, je suis peut-être en danger. Alors les pauvres, la pauvreté, elle est multiforme, hein, mais je pense que c'est un appel aussi, c'est ce que dit saint Paul, la charité du Christ nous presse. Ben voilà, je pense que la méditation sur l'enfer, c'est « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire » et « Quelle est la place des pauvres dans ma vie ?» À plusieurs reprises, d'ailleurs, c'est « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, venez les bénis de mon Père, dans le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Mais vous avez aussi, quand Jésus dit « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, c'est eux qui vous accueilleront dans les temps éternels. » Et il y a une autre, je trouve qu'il y a une autre, il y a un autre passage de Saint-Pierre que dans l'épître de Saint-Pierre que je trouve magnifique, c'est la charité couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que j'ai mes péchés, j'ai mes turpitudes, mais c'est pas ça qui doit m'empêcher d'aimer et de poser des actes de charité, en particulier envers les plus pauvres. La charité couvre une multitude de péchés, je pense que c'est une parole pleine d'espérance. Voilà, 21h25. Ça va, je vous ai pas...